Et c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet, le journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Une conférence de financement pour rééquilibrer les comptes des retraites d'ici à 2027. C'est la solution qu'a choisi le gouvernement pour tenter de sortir de la crise. Alors, c'est un geste politique, mais quelle marge de manœuvre économique?
Eh bien, certaine d'abord, puisque dans l'avant-projet de loi, c'était bien l'âge pivot à 64 ans qui reflétait le souci d'équilibre du système. C'était un outil qui aurait permis d'économiser 12 milliards d'euros d'ici 2027. En leur tirant donc le premier ministre donne encore une fois raison à la CFDT et semble laisser la main aux partenaires sociaux. Alors est-ce un rapprochement ou une manœuvre? Il faudra en tout cas d'abord s'entendre sur le déficit, estimé jusqu'ici entre 7 et 18 milliards d'euros en 2027, et puis surtout sur les leviers pour le combler. Pour beaucoup de commentateurs, la marge est étroite puisque le gouvernement ne veut ni augmenter les cotisations, ni baisser les pensions. Tout pourrait se jouer sur la durée de cotisation. Pas forcément, explique Jacques Rigaudia. Il est conseiller maître honoraire à la Cour des comptes et ancien conseiller social de Michel Rocard et Lionel Jospin.
Ceux qui regardent le dossier de près savent que le passage au régime par points tel qu'il est prévu dans le rapport Delevoye entraîne une baisse des cotisations. Si on prend le Premier ministre au mot, pas de hausse du coût du travail, si on maintient le niveau des cotisations à leur niveau actuel, on a dégagé déjà 4 à 5 milliards en maintenant le plafond et on dégage 14 milliards en mettant la cotisation de solidarité au niveau qui est actuellement le sien de fait. J'ajoute le troisième point, parce que les choses soient claires. Aujourd'hui, la caisse d'amortissement de la dette sociale rembourse la dette de la sécurité sociale. Or, cette dette sera intégralement remboursée en début 2024. C'est-à-dire qu'en 2024 seront libérées les ressources qui y sont affectées. C'est d'une part la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale, et une fraction de CSG. Bon, ces deux ressources représentent aujourd'hui 16 milliards. Est-ce qu'on va baisser les cotisations ou est-ce qu'on va les maintenir à leur niveau actuel et les affecter au financement, au moins en partie, de l'éventuel déficit du régime de retraite? C'est une bonne question. Donc, vous voyez, en faisant un petit inventaire quand même très comptable, très rapide, on en est à une bonne trentaine de milliards, en restant dans la lettre de la lettre.
La fiscalité qui est d'ailleurs une des solutions avancées par l'UNSA. Et une quatrième piste semble aussi se dessiner, Xavier, pour la conférence de financement.
Oui, là ce n'est pas un levier à proprement parler, mais plutôt un trésor. Ce serait puisé dans le fonds de réserve des retraites, 36 milliards d'euros. Sibeth Ndiaye l'avait elle-même évoqué hier matin, mais le MEDEF s'y oppose. Restent les impondérables qui pèseront favorablement ou non sur le financement d'ici 2027. En attendant, les partenaires auront 3 mois pour s'entendre à partir de fin janvier, sinon c'est le gouvernement qui légiférera par ordonnance.
On passe au bref. Qui en veut à l'alliance Renault-Nissan? Des informations de scission dans la presse britannique hier ont été aussitôt démenties par les autorités.
Information malveillante, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire en répliquant à l'article du Financial Times qui affirme que les dirigeants de Nissan préparent un plan secret en vue d'une scission. Les directions de Nissan et Renault ont justement également démenti. Alors vengeance, c'est vrai que Carlos Ghosn lui-même avait affirmé la semaine dernière que l'alliance était morte et la période est cruciale avec le choix prochain d'un nouveau directeur pour Renault. Alors, tentative de déstabilisation ou vraie information, le Financial Times évoque des raisons plus industrielles. Ce sont les tensions entre ingénieurs de Nissan et Renault, pas nouvelles, elles, au sein de l'Alliance.
Et pour finir, 1000 milliards d'euros sur 10 ans pour la transition énergétique en Europe. La Commission européenne a tenté hier de convaincre le Parlement de la faisabilité de son pacte vert.
Oui, premier chiffrage devant les députés de ce mécanisme financier européen qui est censé mobiliser 100 milliards d'euros par an avec 3 piliers, un fonds d'investissement pour les entreprises innovantes, des prêts verts de la Banque européenne d'investissement et un fonds de transition de 7,5 milliards d'euros jusqu'en 2027 pour les régions les plus dépendantes aux énergies fossiles et pour convaincre les États les plus réticents. Tous devront cependant faire un effort supplémentaire car les besoins globaux pour atteindre la neutralité carbone en 2050 sont fixés à 260 milliards d'euros par an. Reste donc 160 milliards à trouver, une moyenne de 6 milliards par an pour chaque membre de l'Union.
Merci Xavier et à demain.